Et vous êtes sur Radio Grand Air, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée à la culture, la langue occitane, et bien sûr menée par son maître en personne dans nos studios, Jean-Claude Dugros, notre linguiste préféré de Bergerac. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour, adichat à tout le monde. Bonjour Christophe, et aujourd'hui nous avons un grand plaisir, nous avons le plaisir d'avoir un invité de marque.
Exactement, voilà. Pour ce mois de décembre, tu nous as fait un beau cadeau, que tu
connais,
Jean-Claude.
Que tu connais bien, je crois, Christophe.
Il me semble, on a dû travailler ensemble pendant de nombreuses années, et c'est avec un grand plaisir que l'on retrouve Jean-Paul Auriac, qui a fait le déplacement pour nous du Périgord depuis Saint-Cyprien. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour, le plaisir est partagé.
Je m'en doutais. Effectivement, Jean-Paul Auriac, on a travaillé ensemble, on va le dire, hein, justement sur une radio bergeracoise, Bergerac 95, pendant plus de 30 ans et même plus, et affinité. On a vécu plein de choses ensemble. Jean-Paul était journaliste de la radio et faisait aussi les comptes rendus d'audience du tribunal de Bergerac, Jean-Paul. De bons souvenirs, ça.
Pas toujours de bons souvenirs. Quand on a parlé de l'assassin de la pleine lune, oui, c'était quand même particulier.
Voilà, non. Enfin, en tout cas, c'était de bons souvenirs de radio, puisqu'on a vécu de bons moments ensemble. Et c'est toujours aussi sympa de retrouver des anciens collègues de travail aujourd'hui qui viennent pour nos studios. Et tu as fait le déplacement depuis le Périgord en Gironde, aux portes du Périgord, pour nous parler d'une passion que tu mènes depuis de nombreuses années, on va dire, sur tes temps de retraite, tout simplement, des recherches que tu fais, et tu vas nous en parler. Alors Jean-Claude, je ne veux pas te spolier l'émission, c'est toi qui
anime l'émission. Il n'y a pas de souci.
Et alors aussi, on rappelle aussi, Jean-Claude, que Jean-Paul, vous voyez régulièrement.
Hein. Oui, Jean-Paul est un de mes élèves assidus à mon atelier d'Occitan du mercredi après-midi à Bergerac. Voilà, et on partage cette passion avec une dizaine de personnes. Voilà, on parle occitan, on lit occitan, on traduit, on écrit, on fait le dicté. Voilà, c'est un moment, je pense, bien agréable pour tout le monde. Voilà, et justement, Jean-Paul, il a cette particularité, c'est que l'occitan, il le connaît parfaitement. Non seulement il le connaît, mais il le lit, il l'écrit. Et voilà, donc on a sur les livres dont il va nous parler, les livres qu'il a écrits sur les loups, ouais. L'histoire de loups. Voilà, on a beaucoup, il a collecté beaucoup de contes, et comme il les a collectés en occitan, on ne peut que les transcrire en occitan. Voilà, donc moi j'ai fait la partie un peu écriture en graphie normalisée, mais Jean-Paul il le lit parfaitement, et il va d'ailleurs peut-être nous en lire un conte qui se passe très près d'ici, très près de Saint-Avis-Saint-Nazaire, puisque ça se passe où, Jean-Paul ?
À la Nougarède.
Ah oui, la Nougarède, effectivement.
C'est vraiment pas loin.
Effectivement, si nos amis foyens nous écoutent à l'heure actuelle, effectivement, la Nougarède, c'est à deux pas de Saint-Avis-Saint-Nazaire. Il suffit de traverser tout simplement la Dordogne, le pont de Saint-Avis-Saint-Nazaire, pour regagner le Flé. C'est ça, Jean-Paul ? C'est au Flé.
Voilà.
On ne dit pas le Flex, hein, c'est le Flé.
Ah non, le Flé, oui. Ça, c'est
un tout petit peu en aval du Flé.
Oui.
Et c'est une mamie qui m'a raconté ça à Montfaucon, qui m'a parlé de l'histoire de son grand-père. Donc je vais vous la lire en occitan. Un hiver, mon papin er anat vendre une bestie à la feire de Flé. Sabez qu'aussi si c'est pas ça. C'est discutis, le compraire, le maquignon, ça ne va à l'autre cop del ferial, puis finalement, ça tourne. La cordaire persuadit les deux parties de couper la paire en douce. Bourroqui, c'est fallu mercat en tustan din lasman. Ma, de par là, à co baya sept. Evan assagar la far al café sus la place. Puis, los bezin arrive. Los cousin, qu'avien pas viste d'un pays l'ana de passade. Toutes s'attaulent per escambiar las nouvelles et bebon. Din l'après-mi-jour, jugant al billard amb los amis del régiment, remembrant los souvenirs, los bons, los autres et bebon. En hiver, la nuit arrive à l'eau et mentre qu'à l'oustau la femme trempa la soupe, comprenez que notre homme est content de viure. Dans la brume, la gelade, prend le camin l'un de la rivière per anar à la bordo à la Nougarède. D'un coup, sentis quicom su sa cambo, comme un petit can qui s'effrète per demanda una caresse. Lou Pepi se tornejo et que veille. Pas un can, que non, mais une loupe superbe, que camine tout contre elle. À l'art, à cosegur, lou paure vieille est pas fier. Quand arrive à la Nougaredo, monte lou camin fins à l'oustau. Dans la cour, c'est dit, à qui? Y a pas mal de danger. S'assetto sur le pas de la porte, lou loupe s'assetto à l'autre cap de la cour, lou loupe gaita l'homme, et l'homme gaita lou loupe. Passa un long moment, les nervis del pépi lui manquèrent. Maria, bayame lou fusil. Alors, lou loupe se quillat et tranquillement est parti d'une la nuèche.
Et voilà, c'est une belle histoire, et qui finit bien en plus, pour une fois. À la foire, on boit beaucoup.
Et voilà, il va au flé pour vendre ses bêtes, bon, ça se passe bien, finalement il finit par vendre, donc on va au bistrot, on arrose la chose, comme il se doit, les voisins arrivent, on re-arrose, les cousins arrivent, on re-arrose, etc. Ce qui fait que la nuit arrive, et ben, il était heureux de vivre. Et puis tout d'un coup, il se dit « Oh, Milody, la Marie va tremper la soupe, je vais me prendre quelque chose. » Alors, il part le long de la rivière, là, pour aller vers la Nougarède, et puis il faisait froid, il gelait à pierre fendre, et tout d'un coup, contre sa jambe, il sent quelque chose, comme ben, le chien du berger qui suit son maître, qui vient se frotter la jambe. Mais c'est que c'était pas un chien, c'était un superbe loup. Alors, comme on dit, il avait plus soif, il n'a pas eu peur. Il a continué en faisant attention de ne pas tomber quand même. Il a pris le petit sentier qui montait à la ferme. Quand il est arrivé dans la cour, il s'est assis sur le pas de la porte et le loup s'est assis en face, de l'autre côté de la cour. Et ils se sont regardés tous les deux. Et ça a duré un certain temps. Et puis finalement, c'est le bonhomme qui a craqué. « Marie, passe-moi le fusil. » Et là, le loup, très digne, s'est levé et il est parti dans la nuit.
Ah, c'est une belle histoire.
Voilà, ouais. Une histoire qui finit bien.
Alors, ce sont des anecdotes, ce sont des vraies anecdotes, enfin, c'est vraiment du vécu, ou ce sont des histoires de légendes racontées au fil du temps, Jean-Paul?
Celle-ci, je pense que c'est une histoire vraie.
Ouais.
Peut-être qu'ils l'ont un peu embellie au cours des veillées, mais au départ, c'est une histoire vraie.
Ah, c'est toujours intéressant d'avoir ces ressentis et justement de retracer ces histoires de l'ancien temps.
Voilà, alors cette histoire-là, on la trouve dans mon premier livre qui s'appelait « C'était le temps des loups ». Et ensuite est sorti un deuxième livre qui s'appelait « C'était le chemin des bois », qui malheureusement est épuisé. Et puis il y a celui-ci qui vient de sortir qui s'appelle « Légendes et mystères entre Périgord et Gascogne ». Donc ce livre vient de sortir et... Il y a donc ces témoignages en français et en occitan.
Un gros travail.
Je crois que c'était indispensable de les mettre en occitan, puisqu'ils ont été collectés comme ça. Donc c'était un peu normal de les restituer et en occitan pour les gens qui savent lire l'occitan, mais aussi en français pour les gens qui ne savent pas lire l'occitan et qui sont intéressés par cette histoire de loup. Il n'y a pas de souci.
Voilà, de belles anecdotes, en tout cas, et on en aura d'autres dans l'émission aujourd'hui.
Bien sûr. Un peu de musique, peut-être.
Allez, mais Jean-Claude, on t'écoute.
On va écouter Rousino de Peyre qui nous chante Chut, chut.
Aos bonets, aos bonets, ao bep e de laranja.
Bien la musique à l'instant sur Radio Grand Air, ça fait du bien de prendre un petit peu d'évasion avec la musique occitane, Jean-Claude.
Oui, 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 c'est toujours un grand plaisir d'entendre Rosino de Peyre, qui nous a quittés il y a quelque temps, mais qui était quelqu'un de très sympathique et qui chantait, elle a chanté avec sa fille d'ailleurs, et c'était très agréable. C'est une autre époque un peu, on est là dans les années 70-80, ça ne rajeunit pas.
Jean-Paul, effectivement, on disait, journaliste, c'est aussi... partir ailleurs. Tu as beaucoup voyagé, tu as eu un prix aussi au niveau du journalisme, alors tu peux nous en parler un petit peu de ce prix à l'époque.
Oui, alors ça c'était mon 4e prix national de journalisme, ah oui. Et qui c'était au Québec, contrairement aux autres. Et donc j'ai été invité au Québec pour comparer nos légendes de loup avec la réalité du loup, donc au Canada. Ça a été une belle aventure. Bon, j'ai rencontré les spécialistes du loup d'abord, et puis après j'ai eu la chance de pouvoir aller dans une communauté amérindienne traditionnelle. Et donc j'ai passé un certain temps avec eux. Finalement, je suis même devenu le parrain d'une petite amérindienne. Donc c'était une très belle aventure. Et ça a été ma première expérience donc avec les Amérindiens. Et puis ça a continué sous une forme un peu différente, en ce sens que une prof d'université américaine d'origine amérindienne elle-même, avait senti que elle devait faire se rencontrer les anciens de tous les peuples traditionnels des différentes régions du monde. Comme elle était très connue aux États-Unis, elle n'a pas eu trop de mal à trouver de l'argent pour ça. Et donc, elle organisait des rencontres entre les anciens des différents peuples. Et elle est venue chez nous en France et elle a eu un choc quand elle a découvert nos sites préhistoriques. Elle s'est rendue compte que c'était des sites sacrés. Et donc, elle a fait venir tous ces anciens, ces étudiants, elle d'abord, et ensuite les anciens des différentes communautés dans ces sites préhistoriques. Parce que pour eux, c'était des sites sacrés, et c'était, bon, ce qui était décrit sur les gravés ou peint sur les murs de nos grottes, c'était des, manifestement des expériences chamaniques. Et donc, j'ai rencontré cette personne à ce moment-là, avec mon ami le préhistorien Pascal Roux, et depuis... On fait beaucoup de choses, on travaille ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. Et donc, j'ai eu la chance d'être invité en Afrique du Sud avec les anciens des différentes régions du monde qui parlaient chacun de leur animal sacré. Et moi, j'ai dû parler des loups avec beaucoup d'inquiétude parce que je savais que la personne qui nous recevait, la responsable du parc là-bas, avait travaillé sur les loups aux États-Unis. Bon, ça s'est bien passé. Et il y avait quelqu'un qui m'impressionnait beaucoup. Il y avait un chaman venu des Himalayas, qui était un chaman kirghize, qui avait été mandaté par les autres chamans de la chaîne himalayenne à l'ONU pour demander la protection du léopard des neiges. Et cet homme m'impressionnait. Je dis, oulala, je vais être en Afrique du Sud, ça va m'impressionner. Il est arrivé dans la salle, j'étais là tout seul. Il est arrivé, il m'a vu, il s'est précipité, il m'a attrapé et il m'a serré très fort. J'ai dit, bon, ça va le faire. Et effectivement, ça l'a tellement fait que... Quand il était pour la deuxième fois à l'ONU, je lui ai téléphoné à New York. Je lui ai dit, tu sais, les Occitans t'invitent à venir chez nous. Parce qu'il se trouve que la seule représentation préhistorique du léopard des neiges se trouve dans la grotte Chauvet.
Ah oui.
Et donc, il m'a répondu qu'il serait très, très fier de venir. Ce serait un honneur pour lui. Et donc, nous l'avons reçu. Il a été visiter avec nous les différentes grottes du Périgord. Et on l'a amené donc ensuite à la grotte Chauvet. Il a été reçu par le préhistorien Jean-Claude, qui avait travaillé sur cet endroit. Et ensuite, nous avons été donc devant le fameux Léopard des Neiges. Et il a fait une invocation devant le Léopard des Neiges. Et c'était fabuleux parce que, à la fois le scientifique et lui avaient des notions pas forcément les mêmes, mais avec un respect total. Et c'était vraiment une très belle aventure. Et puis une chose qui s'est passée en Afrique du Sud, c'est que on avait été reçu là-bas dans la vallée de la Timbavati par la communauté noire de cette vallée et par la princesse de cette communauté qui était venue avec ses danseuses sacrées. Et donc les danseuses sont parties dans un petit sentier jusqu'à une clairière où un feu était préparé. Et elles ont dansé autour du feu. Et chaque fois qu'elles avaient fini, elles serraient la main à chaque personne autour du feu, etc. La dernière a carrément dansé sur les braises. Quand ça a été fini, la prof américaine demande au chaman de l'Himalaya de faire une invocation. Il fait une invocation. Ensuite, elle demande au chaman du désert du Kalahari de faire une invocation. Il fait une invocation. Et ensuite, elle se tourne vers moi, elle me dit « Jean-Paul ?» Ouh là là. Bon, d'accord, j'étais le seul représentant de l'Europe, mais dans ma tête, je me dis, oula, parler après les chamans, et puis je me suis dit, bon, arrête ta tête. Et j'ai fait un appel à nos anciens d'Occitanie, en Occitan, et ça s'est très bien passé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis, on me demande régulièrement de faire des invocations en Occitan, en particulier les groupes américains me demandent des invocations en Occitan sur les sites préhistoriques. Et là, récemment, on m'a même demandé de faire une invocation en occitan à Chartres, ah oui, lors de la New Chartres Academy, qui est une réunion d'universitaires venus des différentes parties du monde autour de l'ancien Chartres, c'est-à-dire du Chartres gaulois. Et donc, ils m'ont demandé de faire cette invocation en occitan. Et j'ai fait cette invocation, accompagnée par la musique faite par un chaman de Nouvelle-Zélande. Et je voyais que... Dans l'assistance, bon, c'est la plupart parlaient anglais, mais il y a une femme qui est venue après, elle me dit, mais vous savez, moi, je parle qu'anglais, mais j'ai pas compris, mais j'ai vraiment ressenti, j'ai eu beaucoup d'émotions à entendre cet occitan. Et donc, j'ai réalisé que notre vieille langue pouvait avoir une autre portée que de raconter nos gentilles histoires de vaches, de fermières, etc. Voilà. Et donc, tout ça s'est retranscrit dans ce livre, en même temps que les histoires, de notre de notre pays.
Ah, c'est un beau témoignage.
Belle histoire, hein.
Absolument.
C'est vraiment super. Oui.
Ouais, ouais. On rappelle, Jean-Paul, les références de ton ouvrage. Hein, si on veut se le procurer, on y est encore d'en parler. Alors, on rappelle le titre et comment on peut se le procurer.
Alors, c'est pas très compliqué. On doit le trouver dans toutes les bonnes librairies.
Ouais.
Il s'appelle « Légende et mystères entre Périgord et Gascogne ». Donc, moi, je suis Jean-Paul Auriac. Et l'éditeur s'appelle « Par ailleurs ». Par ailleurs, on peut le trouver évidemment sur le site de l'éditeur, mais votre libraire habituel doit pouvoir le procurer sans problème.
Voilà, donc un très très beau cadeau pour mettre au pied du sapin. On le rappelle en ce mois de décembre, Jean-Claude.
Oui, c'est une bonne idée de Noël, de cadeau de Noël. Si le Père Noël nous écoute, hein, on sait qu'il comprend.
Et voilà, et on pourrait même inviter Jean-Paul Auriac à venir faire le loup au pied du sapin. C'est vrai, hein.
Allez, un peu de musique. Hein.
On te suit, Jean-Claude.
Eh bien, on va écouter Nadaou. Alors Nadaou qu'on connaît bien, bien sûr,
qui tourne un petit peu partout.
Qui va venir à la force l'année prochaine.
Ah, bon, c'est officiel.
Ah oui, c'est officiel, oui, ça y est.
On s'inscrit déjà.
Voilà, on peut déjà réserver Nadaou au mois de septembre.
Ils sont venus il n'y a pas longtemps à Bergerac, effectivement.
Voilà, et donc c'est un titre en français qui s'appelle « Mon Dieu, que j'en suis à mon aise ». Voilà, c'est un grand classique de Nadaou. C'est très émouvant, c'est une chanson très ancienne qui se passe pendant les guerres d'Italie, du temps de Napoléon. Voilà, donc c'est une très belle chanson.
Mon Dieu que j'en suis à mon aise, quand mamie est auprès de moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Comment veux-tu que je t'embrasse? Tout le monde dit mal de toi. On dit que tu pars pour l'armée, dans le Piémont servir le roi. On dit que tu pars pour l'armée, dans le Piémont servir le roi. Quand tu seras dans ces campagnes, tu n'y penseras plus à moi. Tu penseras aux Italiennes qui sont bien plus belles que moi. Tu penseras aux Italiennes qui sont bien plus belles que moi. Si fait, si fait, si fait ma belle, j'y penserai toujours à toi. Je m'en ferai faire une image à la semblance de toi. Je m'en ferai faire une image tout à la semblance de toi. Quand je serai à table à boire, à tous mes amis je dirai: chers camarades, venez voir celle que mon cœur a tant aimée. Chers camarades, venez voir celle que mon cœur a tant aimée. Je les aimais, je l'aime encore, je l'aimerai tant que je vivrai. Je l'aimerai quand je serai mort, si c'est permis au trépassé. Je l'aimerai quand je serai mort, si c'est permis au trépassé. Alors j'ai versé tant de larmes que trois moulins en ont tourné. Petit ruisseau, grande rivière, pendant trois jours ont débordé. Petit ruisseau, grande rivière, pendant trois jours on débordait. Mon Dieu que j'en suis à mon aise, quand mamie est auprès de moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi.
Nadao à l'instant sur Radio Grand Air, votre émission consacrée à la culture et à la langue occitane avec Jean-Paul Auriac, notre invité ce mois-ci. Ça fait plaisir, ça fait des années qu'on s'était pas revu et nous l'avons accueilli dans l'émission de Jean-Claude qui a eu l'idée, excellente idée de l'inviter.
Voilà.
Et nous sommes en décembre, alors il y a beaucoup de choses à dire. Hein, aussi.
On va continuer donc avec notre almanach occitan, notre rubrique de tous les mois. Ouais. Et voilà, nous sommes en décembre et voilà quelques proverbes, quelques dictons. Mais c'est là, comme on a dit le mois dernier, si tu te rappelles Christophe, c'est vrai qu'on se rend compte que les proverbes qui sont anciens maintenant, inévitablement, eh bien, ils sont un peu comme le réchauffement climatique, ils sont plus tellement d'actualité parce qu'on nous parle de neige, on nous parle de... Ouais. Et alors que malheureusement on n'en a pas. Voilà, donc décembre, voilà qu'il n'y a plus rien à cueillir et qu'il est nécessaire d'entamer les réserves. Décembre prend tout et tornerai. Décembre prend tout et ne rend rien. En son début, décembre est encore frimaire. Et les proverbes sont bien d'accord sur ce point. En décembre, loupé dans la cendre. En décembre, les pieds dans la cendre. Il convient donc de rester au coin du feu, dans la grande cheminée, au cantou, dans la caillerio. La grande fête de décembre, caille dans la caillerio. La grande fête de décembre, c'est dans l'âtre. Ou sous les redons, avec un bonnet de nuit en laine, à pompons, et juste le nez qui dépasse. En décembre et janvier, si on pas trop matinier, en décembre et janvier, ne sois pas trop matinal. Si le lit est une consolation, la table en est une autre. En décembre, jalado, ma soupe trempado. En décembre, gelé, mais soupe trempée. En tout cas, il est certain qu'il fait meilleur dans la maison qu'à l'extérieur. Faille pas meilleur en décembre, samina, que nous travaillons. Il ne fait pas meilleur cheminer en décembre que travailler en août. Travailler, c'est bien entendu travailler la terre, suer au labeur. Quant à cheminer, c'est le plus souvent vagabonder. Un chaminaire, c'est presque toujours, plutôt qu'un promeneur ou un pèlerin, un vagabond, un sans-logis. Et notre proverbe reprend un peu la même idée, mais avec, nous semble-t-il, un peu moins de logique. Ni en août samina, ni per décembre nada. Ni cheminer en août, ni nager en décembre.
Bon, nager en décembre, on pourrait le faire.
Oui, hein. On peut le faire. Pas trop l'idée. Hein. Quoi qu'il en soit, si vous devez sortir, n'oubliez pas, à défaut de crème dermique, votre vieux passe-montagne. Décembre est une bielle qui faille ruffa à la pelle. Décembre est un vieux qui fait rider la peau. Et oui, décembre est un vieux. Si on l'appelle le mes de l'Avent, on l'appelle aussi parfois l'oumès viel. C'est que les Occitans, on appelle novembre l'oumès mort, décembre l'oumès viel. Voilà, donc ce sont des images. Les grands froids de décembre seraient prévisibles très tôt. Neige de septembre, pluie de novembre, serrant jalade de décembre. Neige de septembre, pluie de novembre, seront gelées de décembre. Alors là, notre ami Michel Chadeuil, il précise bien. Le réchauffement climatique serait-il beaucoup plus sérieux que ce que l'on nous dit? Nous ne souffrons plus guère du froid en décembre, et c'est bien normal, puisque personne en Périgord, de mémoire de vivant, n'a vu neiger en septembre. C'est vrai. Et voilà qu'en sa fin, décembre devient nivose, le mois de la neige. Mais il n'y a plus guère que de la fausse neige de nos jours, sur les cartes de vœux et sur la houppelande de ces Pères Noël, bien frileux sans doute, rhabillé par Coca-Cola. Combien de Noël sans neige après un Noël blanc? Pourtant, c'est une bonne chose que décembre soit décembre. Quand est frais décembre, que la neige tombe, tout que peut rendre l'annado fécondo. Quand décembre est froid, que la neige tombe, tout cela peut rendre l'année féconde. C'est vrai que les anciens, moi j'entends dire aux anciens que la neige c'était de l'engrais. Il paraît que voilà. Alors quelques jours du mois de décembre, et surtout un jour important, c'est le fameux dicton qui dit per Nadal, per Saint Olusso, un sao de puso. Et alors, je crois qu'on en avait déjà parlé l'an dernier, mais bon, voilà, Sainte-Luce, autrefois, était le 23 ou le 22 décembre, puisqu'il y a eu la réforme du calendrier grégorien, donc qui a fait qu'on a perdu une dizaine de jours. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Sainte-Luce, je crois, est le 8 ou le 9 ou le 10 décembre. Mais autrefois, comme il y avait 15 jours de plus, oui, c'était logique que Père Sainte-Luce, il saute des puces, dont les jours allongent, saute de puces, voilà. Ça, c'est très important. Voilà, mais on va arrêter là. On va parler de Noël, mais Nadao, tout le monde connaît le Noël des petits garçons, et même des grands.
Oui, c'est vrai, on y croit toujours, hein. On reste des enfants, même si on grandit. On a toujours ces moments de plaisir, de souvenirs qui reviennent, effectivement, lorsqu'on met le sapin et qu'on met ces guirlandes. C'est une ambiance aussi.
C'est vrai, oui. Allez, ouais, on va écouter un peu de musique. Alors, on va se faire plaisir avec Massilia Sound System.
Ah oui, c'est tes amis, ça.
Voilà, nos amis marseillais. Voilà, et ça, c'est de l'excellent occitan, et c'est de l'occitan qui bouge, qui boulègue. Donc, ça s'appelle Ça le caractère, en français en plus, mais bon, je crois qu'il y a de l'occitan dedans.
Ha ha! N'embrouille pas la Massilia, sinon tu risques des problèmes, cousin. Tu le sais?
Tu le sais?
On a un sale caractère, faut pas nous parler de travers, sinon on peut perdre nos nerfs et tout foutre à l'envers. On a un sale caractère, méfie-toi si on devient vert. Vaut mieux faire un pas en arrière, faut pas nous pomper l'air.
Sommes-nous tous capables de toujours nous contrôler? Est-ce même souhaitable? Est-ce toujours recommandé? Suis-je lamentable quand je me suis énervé pour une raison honorable ou juste par nécessité? Quand quelqu'un est exécrable, qu'il vient m'emboucaner et que sans raison valable, il me marche sur les pieds. Parfois, il est préférable de me laisser emporter, de lui sauter sur le rable et de lui rendre sa monnaie. Il faut être charitable, mais c'est quoi la charité? Certains sont incapables et ne veulent rien lâcher. Rappelle-toi des misérables, rappelle-toi des Thénardier. Victor Hugo, le vénérable, nous en a si bien parlé. Tous ces dirigeants minables, bons à nous manipuler, traînent au fond de leur cartable, de quoi nous faire crever. Ce sont des gens insatiables qui veulent tout posséder. Vous les marchands de sable, je peux plus vous supporter.
On avance à le caractère, faut pas nous parler de travers, sinon on peut perdre nos nerfs et tout foutre à l'envers. On avance à le caractère, méfie-toi si on devient vert. Vaut mieux faire un pas en arrière, faut
Mikey, roumé, 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 gaïlé, les galeries, les rouspetteurs aussi, les marronneurs, les ronchons, les renailles, si tu les embrouilles, ben t'es mal parti. Roumé, 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 gaïlé, ça porte le jour et se fâche la nuit. Toujours vigilant, ne laisse rien passer, contre les pébrons, t'as raison de râler. Toujours regardant les choses de plus près, juste c'est juste et raté c'est raté. Car quand trop c'est trop, il faut faire du scandale, leur parler gras, leur envoyer nos sandales. Quand les bornes ont tout été dépassées, faut protester avant qu'ils les aient cassées. Ouais, moi je m'énerve, moi je me fâche, moi je roumègue, moi je m'engasse, moi je m'emporte, moi je menace, moi je pète les plombs.
On avance à le caractère, faut pas nous parler de travers, sinon on peut perdre nos nerfs et tout foutre à l'envers. On avance à le caractère, méfie-toi si on devient vert. Vaut mieux faire un pas en arrière, faut pas nous pomper l'air. On avance à le caractère.
Que tout est cagant, et quand ils disent c'est marrant, il n'y a que qui rigole, ils s'en battent les flancs. Ils marronnent en occitan, y'a que qui capte, ils sont contents. Vêlés on dirait de gitans, c'est la vieille école, feignant et gourmand. Le pape et le moussu, sacré combinaison, sur scène dans la rue, même en demi-saison. Tire du vin cousin si tu les as à la maison. Y'en a un qui a toujours soif et l'autre qui a toujours raison. Et si ça t'intrigue, tu pourras l'étudier. La soupe de brigue est un art marseillais. Ici on passe notre temps à rouspéter, et c'est quand on arrête qu'il faut s'inquiéter.
On a un sale caractère, faut pas nous parler de travers, sinon on peut perdre nos nerfs et tout foutre à l'envers. On a un
sale le caractère. Méfie-toi si on devient vert. Vaut mieux faire un pas en arrière. Faut pas nous pomper l'air. On a un sale caractère. Faut pas nous parler de travers. Sinon on peut perdre nos nerfs.
Massilia Sound System, dans l'émission consacrée à la culture, la langue occitane. J'aime bien te faire dire le titre de l'émission, c'est plus simple, parce que moi j'ai tendance à fourcher un petit peu avec ma langue.
Mais non, parler notre langue.
Ah, ça chante, déjà. Avec notre invité Jean-Paul Auriac, qui est avec nous sur Radio Grand Air, et un ami de radio de longue date, et qui aujourd'hui est avec nous sur la radio pour présenter son nouvel ouvrage consacré au loup, et ses histoires d'anciens, recueillies à travers le temps. Jean-Paul.
Alors il y a une histoire à laquelle nous tenons beaucoup. Elle se passe loin de nous. Ça se passe donc à la limite de notre département de la Dordogne. Mais la personne qui me l'a raconté est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui était proche de nous, avec qui nous avons travaillé à la radio. Il s'agit d'Annie Delperrier.
Ah oui, que l'on salue à sa mémoire.
Oui,
effectivement,
vrai.
Annie Delperrier qui a été un personnage dans la vie.
Une grande dame.
Et donc Annie racontait. Quand era picciù, un pepin demorava amb sa famiglia dins un massatge sus la comune de Salon-la-Torre, a la frontiera de Corrèze e de Dordogne. L'ustau era isolat, environat de bosques. Amb sa sor, avien una piccione canya adorable e l'aimavan plan. Un cer, la canya tornèt pas. Lo paire diguèt: «Los loups sont partout dans aquelle forêt. Aïe bien peur per la gosse. L'endemain, pas de cagno. 2 jours, 13 jours, ré. Pensez bien, vous autres, que los pichons eront malheureux. Une serre, à l'heure qu'era à table, quiconque grattait à la porte. Los petits galopèrent per ouvrir. Et la pitchouna cagna in traite, bolégant de la coa. Ma, d'arrier la cagna, in traite une loupe, bolégant la coa tabé. Erro tombat amoureux de la pitchouna. Alors, podez imaginar, vous autres, la panique dins aquel ustau. Las femmes cridavan, los hommes un air qu'air un baston, un fusil. Des ségures, le loup est portit. Après, cadasser, le loup, al cap del bosque, appela vos la cagno, ma la pauvrette est estacado. Era doncos un amour sans espère, ma le conte est un conte vertadier, m'agrade comme agradava à la mamette qui me la contate. Alors, je vous le traduis brièvement.
Oui.
Donc, Annie Delperrier avait un grand-père qui habitait avec sa famille dans une petite ferme qui était sur la commune de Salon-la-Tour, à la frontière de Corrèze et de Dordogne, au bord des bois. Et les enfants, les petits, le garçon et sa fille, avaient une petite chienne, mais vraiment adorable. Ils l'aimaient beaucoup. Un soir, la chienne ne rentre pas. Le père dit: « Vous savez, les loups sont partout dans cette forêt, j'ai bien peur pour la petite. » Le lendemain, pas de chienne. 2 jours, 3 jours, rien. Vous pensez bien, vous autres, que les petits étaient malheureux. Un soir, alors qu'ils étaient à table, ça gratte à la porte. Les petits galopent pour ouvrir. Et la petite chienne entre en remuant la queue. Mais derrière la chienne est entré un loup, remuant la queue aussi. Il était tombé amoureux de la petite chienne. Alors vous pouvez imaginer la panique dans cette maison. Les femmes criaient, les hommes allaient chercher un bâton, le fusil. Ben, c'est sûr que le loup, ben, il est parti. Après, chaque soir, le loup, depuis le coin du bois, appelait la chienne. Mais bien sûr, la petite, la pauvre, elle était attachée. C'est donc un amour sans espoir, mais le conte, et c'est un conte vrai, me plaît, comme il a plu à la mémé qui me l'a raconté.
Là, c'est joli.
Belle histoire, hein, oui.
Ouais, belle histoire à nouveau. C'est et vrai. On salue à nouveau, bien sûr, Annie Delperrion, oui. Y pense très fort à elle.
C'est vrai. C'est une dame qui avait vraiment une culture extraordinaire. Mm. Et elle avait une amitié particulière pour la langue occitane, pour la culture occitane, parce qu'elle se rappelait, elle avait été élevée dans la double, elle se rappelait que l'occitan était autour d'elle. Et c'est vrai qu'elle avait toujours favorisé, elle avait toujours aidé à la culture occitane. Elle avait toujours fait des réunions, elle avait fait des petites conférences où chacun pouvait dire quelque chose en occitan. Et c'était vraiment, oui, je suis très, très heureux de pouvoir lui rendre hommage, parce que Annie Delperrier, c'est quelqu'un qui a compté beaucoup dans la vie culturelle bergeracoise, en français certes, mais aussi en occitan.
Et elle était d'une grande, grande gentillesse.
Absolument accessible, et elle a longtemps présenté l'émission La Fête Poétique, hein, ouais. Sur Bergerac 95, auquel Jean-Paul et moi-même nous avons participé, et même toi Jean-Claude.
Hein, elle avait une classe extraordinaire, c'était vraiment quelqu'un de très très bien. Ouais.
Voilà, bel hommage, merci Jean-Paul pour cette petite escapade dans les souvenirs qui font chaud au cœur en tout cas.
Alors j'ai remarqué Jean-Paul, bien souvent les histoires de loups, elles finissent bien, mais tu crois que dans la réalité c'était comme ça, quoi, le fusil des fois il pétait pas le fusil?
C'était, on va dire, c'était un coup sur deux, c'est très ambigu, hein, le d'accord. Loup reste malgré tout un carnassier.
Ouais.
Et donc, j'ai recueilli pas mal d'histoires où, par exemple, les gens laissaient le petit au coin du champ où ils travaillaient, et puis le loup arrivait, il embarquait le petit. Donc ça, c'était terrible. Et en même temps, j'ai recueilli aussi des histoires pareilles. Le loup arrivait, et simplement, il jouait avec le petit, il s'amusait avec lui. Et donc, parce qu'il faut dire une chose, c'est que le loup est fasciné par l'homme. Mais il n'ose pas s'en approcher. Très souvent, bon, toutes les histoires qu'on raconte, c'était le loup qui suivait les anciens revenant d'éveiller. Il les suivait à 50 mètres derrière, il voyait les yeux du loup qui brillaient, donc il claquait les sabots, ou alors il y avait la lanterne à loup avec des trous dans la tôle pour que l'irisation fasse peur au loup, etc., etc. Et je me souviens d'avoir dit une fois, au cours d'une émission, le loup est fasciné par l'homme, mais il ne sait pas comment s'en approcher. Et c'est amusant parce que cette histoire est partie sur le mail de Worldwide Indigenous Science Network et est partie dans le monde entier, dans toutes les communautés indigènes. Et il y a eu des tas de retours en disant « oui, c'est vrai, c'est vrai ». Et ça m'a fait plaisir.
C'est important, parce que c'est vrai qu'il y a des légendes, il y a des croyances, on va dire, et c'est très important de pouvoir l'étendre au-delà des frontières et dans plusieurs pays. Oui, Jean-Paul, tu as fait un travail extraordinaire.
C'est vrai que quand on parle du loup, on a vu aussi des films, des reportages. Souvent, ça fait peur, hein, en fait, le loup, mais c'est aussi un animal. On peut s'attacher, parce que je pense que tu l'as dit, Jean-Paul, effectivement, c'est un animal très intelligent et qui a aussi des capacités. Et donc, on a souvent vu des films dans un esprit un petit peu d'inquiétude,
oui.
mais c'est peut-être un petit peu dommage d'ailleurs. Et grâce aussi à ces histoires-là qui sont relayées, on a une autre approche du loup. Et
oui,
ça,
oui.
C'est très très bien, ouais.
Oui, ça, je suis entièrement d'accord. Oui, c'est vrai. Oui. Merci, Jean-Paul.
Avec plaisir.
Allez, on va écouter encore un peu de musique périgourdine avec le regretté Jean-Paul Verdier. Jean-Paul Verdier qui était vraiment un homme formidable, un homme de grande culture aussi, qui connaissait la langue, la culture occitane. C'était un homme merveilleux. Il est parti un peu trop tôt, mais bon, c'est comme ça. Voilà, il nous chante « Legendo ».
Scemo cavolo ancora viaggio c'è niente, c'è sarà un freno e piccolo del monce, le vorrà prendere, me quasi un altro, lei non dice se niente, e to fa che berie, e to fa che berie, vero vieio, che lo fici fai nel fondo, vero vieio, che lo segni nei pamori, vero vieio, che lo segni nei pamori.
Sur Radio Grand Air, en ce mois de décembre, on est prêt pour ces fêtes de fin d'année et surtout pour parler des loups. Hein. C'est, ça va un petit peu avec la saison, on va dire. Jean-Claude, à l'instant, donc la musique et.
Mais c'était Jean-Paul Verdier, voilà. Jean-Paul
un
Verdier,
petit hommage aussi.
Qui on rend hommage, oui, qui faisait une émission, lui aussi, de radio. Décidément, on est dans le monde de la radio puisque il était sur France Bleu Périgord, voilà, donc avec Martial Peyrouni. On a eu l'occasion souvent d'aller faire des émissions, de parler. Voilà. Donc c'était un bon professionnel, mais c'était aussi un chanteur et puis un homme de cœur. C'était vraiment quelqu'un de très très bien, Jean-Paul.
Voilà, et dans son, dans ses bagages, notre ami Jean-Paul Auriac, qui nous a fait le déplacement depuis Saint-Cyprien, a des histoires à nous raconter sur les loups, hein, et des histoires qui vont nous amener du côté de Lascaux, je crois, c'est ça?
Oui, effectivement, ça c'est une histoire qu'on trouve dans mon dernier livre, mais qui n'était pas dans les précédents, parce que c'est assez récent. Vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques années, on a amené des loups dans le parc du Tot, le parc qui est couplé donc à Lascaux. Et la capacitaire vétérinaire qui s'occupait de ces loups, qui est une amie, m'a raconté que il y avait deux louves et un loup. Les deux louves se sont acclimatés sans trop de problèmes et le loup restait prostré, terré dans son antre et il était complètement paniqué. Et puis elle me dit, deux jours après, je vois ce loup sortir, il va vers la barrière vitrée et aller vers un monsieur qui était là. Alors j'ai pensé qu'il voulait le mordre. Je vais vers le monsieur, lui dis, mais il voulait vous mordre. Il lui dit, pas du tout, pas du tout. Il dit, bon, je vais vous expliquer, je suis un chaman. J'ai senti que ce loup allait mal. Et j'ai communiqué avec lui, je lui dis, ne t'inquiète pas, tout va bien, ne t'inquiète pas. Et le loup est venu jusqu'à la barrière et le loup, à travers la vitre, lui léchait les mains.
C'est exceptionnel.
Et donc, elle me dit, bon, tu sais, moi, je crois pas à ces histoires-là, l'histoire de chaman, j'y crois pas du tout, mais je dois reconnaître que là, il s'est passé quelque chose de vraiment étrange.
Un dialogue qui s'est, en fait, opéré entre l'humain et les loups, quoi.
Voilà, une communication.
Une communication, ouais.
En Périgord, en plus.
Et en Périgord,
mais oui.
Ça, c'est à rajouter, effectivement, dans les archives des loups. Donc, c'est une belle histoire.
Hein. Et alors, Jean-Paul, quelle est la suite, maintenant? Tu as encore, dans ta besace, tu as encore des comptes en réserve pour faire un autre livre?
Oh, il y en a. En pagaille, vraiment. Qu'est-ce qui est important? Je sais pas. Il y a des choses assez extraordinaires en Périgord, en particulier l'histoire de l'herbe des fées. Il y a les légendes de fées, certaines sont connues. Il y a l'histoire du petit tailleur de l'anneau que l'on trouve dans les livres de contes du Périgord. Et vers chez moi, vers Saint-Cyprien, il y a des bois particuliers où l'on se perd. Et les gens pensaient que s'ils se perdaient, c'est parce qu'ils avaient marché sur une herbe particulière. Certains pensaient que c'était de la palène. Et quand on marchait sur cette herbe, on se perdait. Et j'ai eu des tas de témoignages de gens sérieux qui se sont perdus. Il y a un gars qui allait tirer les palombes en haut de la colline, en haut des grands peupliers le soir, et puis la nuit tombe, il redescend, et le copain qui habitait une ferme à moitié pente, d'un coup, au milieu de la nuit, le voit arriver complètement hagard, griffé de partout. Il avait perdu son fusil, et il s'était perdu, alors qu'il allait là-haut pratiquement tous les jours, il connaissait parfaitement le lieu. Et donc c'était un témoignage. Et le même gars qui habitait cette petite ferme m'a raconté que quand il était gamin, ils avaient été aux champignons avec la voisine, ils avaient traversé le bois, ils s'étaient retrouvés donc à une ferme de l'autre côté, bon, ils discutent avec le bonhomme et ils repartent. Et puis ben, ils se sont perdus dans le bois et à un moment ils se sont retrouvés à la même ferme du papy. Alors, le papy leur dit « Bon, écoutez, je vais vous ramener parce que vous n'allez pas y arriver. » Et il les a raccompagnés jusqu'à ce qu'ils approchent de leur maison. Hein. Et donc, ils s'étaient effectivement perdus. Et moi, un jour, avec ma compagne qui était institutrice, nous devions accompagner les enfants de l'école dans une promenade sur un sentier. Et ce sentier passait justement dans cette fameuse forêt. Et nous nous sommes perdus. Nous n'arrivions pas à trouver le chemin. Au point que, quand j'ai finalement trouvé un chemin, j'ai accroché des papiers crépons aux branches, parce que je me suis dit, bon, que nous on se perde, c'est pas un problème, mais les enfants, on n'a pas le droit. Et donc j'avais accroché des papiers crépons.
Comme le petit poucet.
Et ça fonctionnait.
Et quand on est revenu au village, on raconte ça à une mamie. Elle me dit, ah ben ça, je lui décris l'endroit. Elle me dit, ah ben ça, oui, cet endroit dont vous parlez, moi je m'y suis perdu aussi. Et elle me dit, mais vous savez... Il y a un ancien là du village, quand il était gamin, il gardait une vache dans ce coin. Et il s'est perdu. Et le gamin, qui n'était pas idiot, il s'est dit, bon, les fées, d'accord, elles vont me perdre à moi, mais ma vache, négatif. Il a attendu que la nuit arrive, que la vache ait faim. Et quand la vache a eu faim, ben, il a attrapé la queue de la vache. Et c'est la vache qui l'a ramené jusqu'à l'étable.
Donc, conclusion, Jean-Paul, quand vous allez en forêt, partez avec une vache.
Exactement.
Ah, c'est original.
Oui, c'est vrai, oui.
On ne sait pas vraiment ce qui se passe. On se perd, mais...
C'est psychologique.
Ce serait cette herbe-là, est-ce qu'il n'y aurait pas des sorcières
C'est étrange. Bon, cette histoire d'herbe des fées, on la trouve aussi au sud de Villefranche-du-Périgord, entre Villefranche et Loubéjac, dans un vallon qui est très étrange, puisqu'il y a une des deux cafourches les plus célèbres du Périgord, la cafourche du cimetière... Et il y a la fonte taride, une fontaine soi-disant tarie, où soi-disant il y aurait des fées, etc. Et il y a l'herbe des fées. Et même les gens, même le propriétaire d'une partie de cette forêt s'y est perdu. J'ai eu des témoignages là-bas aussi, c'est vraiment étrange. Un soldat qui habitait de l'autre côté, au bord de la forêt, qui repartait vers son casernement, s'est perdu aussi alors qu'il était né là, quoi. Donc il y a des choses étranges dans certains de ces endroits...
Mystère.
C'est vrai, ça nous fait un petit peu frissonner tout ça. Avant de nous séparer, l'actualité, bien évidemment, a été riche cette année en termes de rendez-vous occitan. On l'a fait librer, bien évidemment, oui. Des rencontres aussi.
Oui, l'année prochaine, on l'a fait librer sera donc à Montignac.
Voilà, c'est bien d'en parler.
Montignac-Lascaux, oui, premier dimanche de juillet, comme tous les ans.
Voilà, nos amis de Saint-Pierre-d'Airaut aussi, peut-être préparent nos amis d'Igor,
oui,
peut-être préparent
bien sûr, faudra
le rendez-vous occitan.
Il faudra les inviter aussi, ils sont toujours sur la brèche, oui, ils font du bon travail, oui. Il y a Pays Ragude aussi qui fait beaucoup. On était samedi d'ailleurs, on était à Bergerac avec les petits de la Calandrette. Voilà, et donc les petits de la Calandrette, ils ont chanté avec Pays Ragude, c'était magnifique. Pays Ragude était très heureux et les petits étaient heureux aussi. Donc, et nous aussi, puisqu'on était les organisateurs, donc tout le monde était content.
Jean-Paul, bien sûr, d'autres projets pour la suite, d'autres rencontres, des recueils. Tu vas continuer à parcourir de long en large la région de la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est grand. Le Périgord, c'est presque déjà, pas écumé, mais tu as fait beaucoup, beaucoup de chemin en Périgord. Tu as d'autres projets qui viennent?
Disons que dans ce livre, je parle aussi d'autres régions, et en particulier des Landes.
Ah oui.
Parce qu'il y a des choses curieuses dans les Landes. Il y a ce qu'on appelle les lagunes. Dans le nord des Landes et sud Gironde, il y a les lagunes. Ce sont des mares. Ils sont circulaires en général. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a un trou au milieu qui communique avec la nappe phréatique.
Ah oui.
Alors on imagine les légendes qui ont pu se greffer là-dessus, avec des gens qui ont disparu dans un trou, etc. Et ça rappelle ce qu'on raconte en pays de Bretagne, au sujet de l'entrée de l'autre monde, le Yon-Eletz, où si on s'approche, ben, y a un papy là-bas qui m'a raconté. Il me dit, petit, tu vois là où il y a les bois, là, tu prends ce sentier qui s'avance vers le marais. Tu fais 50 pas, mais tu n'en fais pas 53. Quand tu en as fait 50, tu vas voir l'herbe est plus verte. Si tu as fait 53, ben, tu ne seras plus avec nous.
Ah, c'est précis, ça.
Et voilà, ça rappelle ce type de légende. Et d'autre part, il y a une chose aussi que j'ai beaucoup prospecté dans les Landes, ce sont les fontaines guérisseuses. Oui. Et il s'avère que, comme chez nous, il y a une recrudescence de la fréquentation des fontaines guérisseuses. Dans les Landes, on trouve des exotos partout, au bord de ces fontaines guérisseuses. De la même façon que chez nous, à Redon-Espie, à côté de Saint-Cyprien, on trouve beaucoup plus qu'il y a 10 ans, on trouve des petits papiers entre les pierres, etc. Il y a une fréquentation. Il faut croire qu'avec notre civilisation moderne et déshumanisée, les gens retrouvent le besoin d'avoir un lien donc avec toutes ces choses-là.
Eh bien, merci Jean-Paul d'avoir fait le déplacement pour nous. On va peut-être rappeler les ouvrages de Jean-Paul qui sont déjà disponibles. Légendes et mystères entre Périgord et Gascogne. Jean-Paul Auriac aux éditions Par Ailleurs. C'est ça, hein, c'est bien ça.
Absolument.
Voilà, et on te croisera bien évidemment dans des conférences. Tu auras bien sûr des moments où on va pouvoir aussi te croiser sur Bergerac, parce que tu restes toujours un petit peu sur notre région avec des amis comme Jean-Claude Dugros pour parler occitan. Et puis voilà, beaucoup de choses, hein, qui occupent ta retraite.
Oui, j'aime bien animer des veillées comme ça. J'ai animé une veillée, j'ai présenté mon livre dans mon village d'enfance, qui est Castelmoron d'Albret, la plus petite commune de France dans l'Entre-deux-Mers. Et donc, j'ai présenté le livre tout à fait officiellement, et puis après, en soirée, j'ai fait une veillée, c'était merveilleux. C'était vraiment une belle soirée, et ça, j'adore.
Voilà, et justement, ça ne peut que bien tomber à la veille de ces fêtes de fin d'année. Jean-Claude, je te laisse le mot de la fin.
Oui, ben écoute, moi, le mot de la fin, ce sera merci et merci et merci, ouais. Jean-Paul, parce que c'est un grand cadeau que tu nous fais de venir à notre radio. Et c'est vrai que c'est un plaisir partagé avec toi, de t'entendre raconter ces histoires. C'est vrai qu'on l'écouterait encore longtemps.
Ah bon, on va leur inviter en 2023. Voilà.
Et merci à vous, j'ai eu beaucoup de plaisir à venir.
Merci Jean-Paul, bon vent, et puis tu reviendras évidemment en 2023, on lui donne rendez-vous là, sortie du studio.
Allez, adichas tout le monde, bonne fête de Nadal. Oui, et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine.
L'année prochaine en 2023.
Une nouvelle année de rubrique toponymie, almanach, poèmes, prose, etc. Voilà, ah, l'Occitan sera la fête.
Voilà, et vous pouvez retrouver l'émission, je le rappelle, en podcast sur le www.radiograndterre.fr. N'hésitez pas à la télécharger, c'est gratuit. Merci Jean-Paul, c'est un véritable plaisir de t'avoir reçu depuis le temps qu'on ne s'était pas revu en radio. À très bientôt Jean-Paul.
À bientôt.